L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Toujours. Quand j'étais en Alberta, il y avait une émission de télévision que Dr. Dick et John DeWort animaient. À la fin, ils disaient toujours « God is good ». Et puis elle disait « All the time ». Et lui dit « And all the time, God is good ». Ça veut dire que Dieu ne change jamais. Dieu est toujours, toujours bon. Et ça donne qu'aujourd'hui, on va parler encore du Seigneur Jésus. On n'est pas ici pour présenter une religion, un mouvement, une église. On est ici pour présenter celui qui est la solution pour tous les problèmes. Et le plus grand problème, c'est la séparation que l'humanité a envers Dieu, une séparation éternelle. Mais heureusement, Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a envoyé son Fils pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu le Père. Et nous avons chanté de lui aujourd'hui, nous avons parlé de Yahvé, nous avons élevé le nom de notre Père céleste, Yahvé. Et aujourd'hui, on va avoir un message, on va se concentrer pendant quelques instants sur le besoin de l'Église, le besoin de l'Église. Si vous êtes sur notre liste d'envoi, vous avez déjà reçu le titre concernant le message de ce matin, le besoin de l'Église. Et ce message-là, comme je me préparais en prière cette semaine, je ressentais qu'on devait dire certaines choses. Parce que dans le monde chrétien, il y a toutes sortes de modes, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde chrétien. Et parfois, on peut être influencé. Et c'est important que dans cette maison, non seulement qu'on puisse avoir une vision commune pour l'avancement, avec des projets tangibles, et savoir là où on s'en va. Mais c'est important également de toujours revenir à notre base. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est vraiment notre appel comme Église, notre besoin et le besoin de l'Église avec un grand E. L'Église de Jésus-Christ ici au Québec, mais au-delà du Québec, il y a vraiment un courant dans le monde chrétien. Et ce matin, ce qu'on veut faire, c'est vraiment revenir à la base. Donc, on va juste pencher nos têtes pendant quelques instants. On va remettre cette portion de la parole en prière. Père éternel, on vient devant toi encore une fois. On veut te remercier, Seigneur Dieu, pour ta parole qui change des vies. On te remercie, Seigneur, pour la présence de ton esprit qui est ici maintenant pour nous révéler ta vérité. On a prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Vous savez, dans Actes 1:8, il est écrit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Seigneur Jésus a dit que nous serions ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous avons un privilège ce matin. Nous pouvons prêcher l'Évangile de Jésus-Christ et littéralement rejoindre les extrémités de la terre via la technologie, via les médias. Et nous avons gloire à Dieu pour cela. Merci Seigneur pour cela. C'est un grand privilège que nous avons. Et en même temps, je peux vous dire, on le sait qu'il y a plusieurs pasteurs qui sont là, qui nous écrivent, qui nous partagent des témoignages de vie, qui sont touchés par les enseignements de cette maison. Et on dit gloire à Dieu pour ça. Et vous savez, on n'est pas là sans réaliser, sans vraiment être conscient que c'est un grand privilège que nous avons aujourd'hui dans cette maison, que nous pouvons influencer d'autres bergers dans les enseignements de la parole de Dieu. Puis si on réalise ça, ça veut dire si on peut influencer des bergers, des pasteurs, ceci veut dire qu'on peut influencer d'autres églises également. Réalisez-vous ça? C'est un grand privilège. Et c'est pour ça, c'est vraiment sacré. Pour nous, notre temps dans la parole de Dieu, c'est un moment sacré. Parce que nous savons ce que nous allons dire et ce que nous allons prêcher de cette chair. Il y a des églises qui vont être touchées et transformées. Il y a des gens, des pasteurs qui m'ont déjà écrit pour me dire, avant j'enseignais telle chose, mais j'ai carrément changé mon fusil d'épaule et maintenant j'ai compris et j'ai changé l'enseignement dans mon église. Mais en même temps, j'étais apôtre sur plusieurs églises et là, tout notre mouvement a changé et a changé d'orientation et de direction. C'est un privilège que le Seigneur nous dit et nous disons gloire à Dieu pour cela. C'est pas à cause de nous, mais c'est à cause des médias que nous avons, et c'est Seigneur qui nous a donné accès aux médias, c'est Seigneur qui nous a donné l'appel aussi par les médias. Et nous avons gloire à Dieu pour cela. Mais en même temps, avec ce grand privilège, il y a une responsabilité où nous devons parfois dire des choses qui ne plairont pas toujours aux gens. Et devant le Seigneur, moi, je suis pas capable de ne pas prêcher ce que Dieu me dit. C'est pour ça, des fois, je peux dire des choses qui vont déranger des gens. Et parfois, on peut s'attirer de la critique. Mais vous savez, Jésus n'a pas toujours été applaudi. Amen. Et il y a eu des fois où il s'est fait opposer. Et c'est clair lorsque nous lisons la parole de Dieu. Et je suis pas ici pour plaire aux hommes, je suis ici pour rendre compte à mon boss qui est Dieu. Alors, ce que je veux faire ce matin, c'est répondre à l'appel de Dieu et de prêcher ce que le Seigneur m'appelle à prêcher. Et le besoin de l'Église ce matin se retrouve entre autres dans Jérémie chapitre 6, le verset 16. Jérémie 6 et le verset 16. C'est un message qui s'adresse à l'Église avec un grand E, l'Église en général, mais ça s'adresse également à notre Église parce qu'on se rappelle notre base. Dans Jérémie chapitre 6 et le verset 16, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent « Nous n'y marcherons pas. » Je vais le relire. « Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. » En passant ce matin, je vais juste m'interrompre deux secondes. Pendant que j'étais dans la louange, j'ai eu une vision qui s'est imposé comme ça, juste rapidement, et je me suis vu sur un chemin vraiment dans la lumière. Et je crois que notre changement d'heure de Tefila va jouer des grandes choses, va faire une grande différence dans cette maison. Et qu'est-ce que je voyais? C'est vraiment, on est dans ce sentier-là de la lumière. Et le Seigneur est en train juste de nous dire, vous êtes sur la bonne piste. Priez, cherchez ma face, et vous verrez la gloire de Dieu comme jamais auparavant. Gloire à Dieu pour ça. Et vous demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Vous trouverez le repos, ça devrait être alléchant, n'est-ce pas, cette parole de l'Éternel? Trouvez le repos intérieur au lieu de chercher à droite et à gauche pour essayer d'être comblé quand on se sent vide en dedans. Mais il dit, et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Il y a une bonne voie, il y a une mauvaise voie. Il y a parfois des nouveaux sentiers que les êtres humains vont se créer pour arriver à leur fin, ce qu'ils veulent. Mais Dieu nous dit, et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Et parfois le Saint-Esprit est là, il est en train de nous appeler, il est en train de nous dire ce que nous devons faire. Mais parfois l'humanité est rebelle contre Dieu et dit, on va faire à notre tête. Et qu'est-ce qui est malheureux, c'est lorsque les pasteurs disent à Dieu, le Saint-Esprit, lorsque l'Esprit leur dit « fais ceci, fais cela », et puis ils disent « ce n'est pas dans mon programme, je vais faire à ma tête ». Et Dieu nous dit que nous devons marcher dans les anciens sentiers. Mais les anciens sentiers ne sont pas très populaires, et pour la chair, ce n'est pas vraiment attirant, parce que les gens veulent toujours du nouveau. Je veux du nouveau. Nouveau et amélioré. Quelque chose de nouveau et amélioré. On voit ça à la télévision. On vend une telle balayeuse, mais là, elle est nouvelle, améliorée. Mais dans le corps de Christ, dans l'évangile de Jésus-Christ, le nouveau, ce n'est pas toujours synonyme pour meilleur. Il y a beaucoup de nouveautés dans le corps de Christ, mais on ne voit pas les percées qu'on devrait voir. Et ce n'est pas à force de plusieurs activités, ce n'est pas parce que nous faisons des nouvelles choses que nous allons vivre la gloire de Dieu. Mais les anciens sentiers. La mode aujourd'hui, c'est que nous voulons une nouvelle approche, une nouvelle présentation de l'Évangile. Nous voulons quelque chose de nouveau. Et ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec la pensée que nous devons pouvoir prêcher l'Évangile et que les gens puissent comprendre ce que nous disons. Et en même temps, on ne veut pas repousser les gens. C'est absolument correct de s'identifier avec notre culture, d'avoir les paroles sur l'écran derrière nous. Est-ce que c'est correct ça? C'est moderne, c'est contemporain, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque nous changeons le message, pour s'adapter, supposément, là, on fait fausse route. Donc, dans cette maison, nous disons non à la modification du message de l'Évangile de Jésus-Christ pour supposément attirer des gens. Donc, si vous êtes ici puis vous dites, « Ben moi, je vais aller dans une église moderne, Je veux voir la croissance, ça m'encourage d'aller dans cette église parce qu'il semble, ça semble être une église vivante et une église en croissance. Mais gloire à Dieu, on est d'accord. Mais une des choses, nous allons toujours, toujours se soumettre à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est notre guide en toutes choses et c'est notre autorité. Donc, on ne changera jamais le message.
On ne changera jamais le message. Mais dans le corps de Christ, aujourd'hui, nous vivons dans une période de temps dans l'Église de Jésus-Christ où il y a vraiment une famine spirituelle, où c'est difficile d'entendre la parole de l'Éternel, où ça devient de plus en plus difficile d'entendre la vraie parole de Dieu. Et nous devons aujourd'hui revenir dans les anciens sentiers et revenir à la parole de Dieu. Et dans cette maison, on peut dire, nous sommes là, je crois, nous sommes fidèles aux Saintes Écritures. C'est notre cœur, on a été fondés dans la prière et l'autorité de la parole de Dieu a toujours été honorée. Nous croyons la parole de Dieu et tout ce que nous voulons faire, c'est parce que la parole de Dieu le dit. Mais on doit toujours entendre ça parce qu'il y a des courants. Et des fois, on peut être influencé et dire, ah bien là, peut-être on peut changer notre façon de faire pour rejoindre les gens. Mais il y a toutes sortes de pièges aujourd'hui dans le corps de Christ à cause de ça. On peut se poser la question, mais quels sont les anciens sentiers? Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? Bien, la parole de Dieu nous donne la réponse en nous posant une autre question dans le psaume 119 et le verset 9. Je vais vous inviter à aller dans le psaume 119 et le verset 9. C'est important pour nous de prendre le temps ce matin. Vous savez, la parole de Dieu change des vies. La vraie parole de Dieu change des vies, transforme des vies, donne l'espoir, la joie, nous donne accès à la bénédiction. C'est merveilleux, mais nous devons connaître la véritable parole de Dieu et ne jamais l'échanger pour autre chose. Dans le psaume 119, au verset 9, il est écrit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Le bon sentier se retrouve uniquement, exclusivement dans la parole de Dieu. » La parole de Dieu. Mais en même temps, on peut avoir la parole de Dieu, mais si elle demeure fermée, il n'y a pas grand changement qui va avoir lieu. Des fois, la parole peut juste être une décoration et dire, on peut la consulter à l'occasion, mais là, on a tellement de programmes, la psychologie, le divertissement, toutes sortes de choses. Il y a des églises où on a totalement changé la formule, si on veut. Puis on peut dire, est-ce que la formule de notre église est biblique? Oui, c'est tout à fait biblique d'être assis pour recevoir la parole de Dieu. Mais des fois, ce qu'on a vu dans le monde chrétien, on change tellement les choses, on a tellement dilué la parole de Dieu que c'est difficile même de savoir si l'Évangile est prêché. Puis en fait, elle n'est même pas prêchée. Il y a certaines églises où les gens viennent à l'église parce que c'est cool d'être chrétien. Et oui, Jésus est cool. Non, Jésus n'est pas cool, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Nous avons besoin, l'Église de Jésus-Christ a besoin de ceci, des pasteurs qui prêchent la vraie parole. Dans Tite, je vais vous inviter à aller dans Tite, chapitre 1, verset 9. Et aujourd'hui, si je me tiens et je prononce, je déclare ces choses-là, je le fais avec un sentiment de responsabilité et en même temps, mon cœur est là par amour. Je veux voir des églises revenir à la parole de Dieu. C'est par amour ce matin que j'apporte ce message. C'est pas parce que je crois que nous sommes meilleurs. Non, nous avons juste eu la grâce de recevoir la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, si vous êtes un pasteur et si vous avez abandonné la parole de Dieu, vous l'avez changée pour toutes sortes d'autres programmes, aujourd'hui, le Saint-Esprit vous appelle à revenir dans les bons sentiers de Dieu. Dans Tite, chapitre 9, ici, on voit les exigences pour l'évêque ou le pasteur. Ça dit que le pasteur soit attaché à la vraie parole. Que le pasteur soit attaché à la vraie parole. Quand on parle d'attachement, on parle d'amour et de fidélité. Que le pasteur soit attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, il y a une saine doctrine, n'est-ce pas? Si la parole de Dieu nous dit qu'il y a une saine doctrine, ça veut dire qu'il y a également l'erreur. Mais c'est capable. Pourquoi? Il faut que le pasteur soit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter. Réfuter, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on va dans le grec, ça veut dire exposer, trouver une faute, corriger. Mais dans notre société aujourd'hui, on n'aime pas ça. On n'aime pas corriger certaines choses. Mais la parole de Dieu nous dit que nous devons corriger certaines choses. On ne peut pas juste flatter les gens sans du poil. Les contradicteurs, ce sont ceux qui parlent contre le message, contre la parole de Dieu. Mais ce n'est pas à la mode. En fait, certaines églises ont réduit leur réunion, qui autrefois avait deux heures et demie, on a réduit ça à une heure maintenant, parce que une heure, c'est plus facile. C'est plus facile, les gens viennent, prennent leur bouchée et puis ils partent. C'est comme du fast-food spirituel. Et c'est vraiment comme ça. Certaines églises ont diminué leur temps de culte. Et puis on dit, ah, ben, c'est pas vraiment la quantité qui compte, c'est la qualité. Je m'excuse. La qualité est rattachée à la quantité de temps qu'on donne au Seigneur. Si on ne passe pas de temps avec le Seigneur, on n'est pas en train de lui montrer qu'on l'aime vraiment. Et ce n'est pas la longueur des rayons qui va nous gagner des prix au ciel. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment de temps d'être exposé à la parole de Dieu. Et quand on aime Dieu, ça ne nous dérangera pas d'écouter un message d'une heure. Parce qu'on a soif, de Dieu. On veut grandir dans ses voies. Mais si on est satisfait avec une demi-heure, puis on dit, ben là, moi, là, une demi-heure, c'est mon top. Ben, vous avez besoin de revenir à la croix et vous repentir et de dire, Seigneur, viens me changer, viens me transformer, je ne suis pas normal. J'ai besoin de changer, j'ai besoin d'avoir une soif. J'ai besoin d'être visité. J'ai besoin d'être ébranlé, de changer. Parce que vous ne grandirez pas sur une demi-heure, 30 minutes par semaine. On a besoin d'avoir une soif pour Dieu et pour sa parole. Et les églises avec quelques minutes seulement pour la parole de Dieu, vous devez revenir à la parole. Puis d'autres vont dire, ben, il ne faut pas refuter. Il ne faut pas réfuter des contradicteurs. Il ne faut pas déranger les masses. Il faut juste prêcher un message qui va bénir les gens et les gens vont nous acclamer. Malheureusement, ce n'est pas un vécu, ça va se passer. Dans 2 Timothée 2, verset 15, j'aimerais ça vous inviter. On va aller ensemble. Vous allez voir ces versets-là. On va prendre le temps. On va les voir et vous allez voir que c'est le Seigneur lui-même qui nous donne ça comme une responsabilité en tant qu'Église. Et pourquoi c'est important pour nous de revenir là-dessus et voir, oui, OK, je suis d'accord, nous devons prêcher la parole, mais c'est important parce que vous devez savoir ce que vous appuyez aujourd'hui. Vous êtes dans une maison spirituelle, vous devez savoir, voici l'orientation de notre Église, nous allons prêcher la parole et je vais personnellement appuyer cette Église, mon Église, parce qu'elle prêche la parole, elle ne veut pas plaire aux hommes. C'est important pour vous de le savoir. C'est important. C'est important de savoir dans quoi nous sommes en passant. J'ai déjà été dans une église, c'était des funérailles ou un mariage, et puis il passait une quête. Et puis, mon épouse était habituée de semer. C'est pas pour la gêner, mais c'était pour donner. Puis j'ai dit, non, chérie, on ne donne pas ici. Puis des fois, on se sent cheap. J'ai dit, chaque semence nous vient de Dieu. On ne semera pas dans une église qui enseigne le mensonge. Je ne donnerai pas une scène dans une place qui prêche des faussetés, des abominations. Amen. C'est important. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à son fils spirituel Timothée qui lui dit « qui dispense droitement » ou « qui transmet droitement la parole de vérité ». Correctement, qui transmet correctement la parole de vérité. Ceci veut dire qu'il y a également une façon de transmettre la parole d'une façon qui n'est pas droite, mais une façon qui est dans l'erreur. C'est clair, hein? N'est-ce pas? C'est pas trop compliqué. Mais il dit, efforce-toi. Ceci veut dire, il va y avoir des efforts à y mettre pour connaître la parole de Dieu, passer du temps dans la parole de Dieu pour s'instruire, pour ensuite être capable de bien prêcher la parole. Mais comment dispenser la parole avec droiture? Comment faire ça? Comment prêcher la parole? Et comment vous, en tant que croyant dans le Seigneur Jésus-Christ, comment pouvez-vous également prêcher l'Évangile avec droiture? Mais premièrement, vous devez comprendre la composition biblique. Et aujourd'hui, je vais prendre quelques instants. Il y a des nouveaux croyants parmi nous. Il y a des nouveaux croyants également sur l'Internet qui ne connaissent pas du tout la parole de Dieu. Et je vais juste prendre quelques instants, même si ça fait 30 ans que vous êtes chrétien, mais gloire à Dieu, vous allez avoir un petit cours de rafraîchissement. La Bible est composée en deux parties majeures. Nous avons l'Ancien Testament qui nous dit « un jour le Messie va venir ». Et nous avons le Nouveau Testament et voilà, le Messie est arrivé. Gloire à Dieu pour ça. Hein? Donc, vous avez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Donc, c'est important de comprendre la composition de base de la parole de Dieu. Et nous avons 39 livres dans l'Ancien Testament, 39 livres et 27 dans le Nouveau. Donc, 66 livres au total. La Bible, en fait, c'est une bibliothèque. Et on peut comprendre que cette bibliothèque céleste, c'est la lettre d'amour pour nous aujourd'hui. Mais nous devons également comprendre, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons comprendre à qui s'adresse chacun de ces livres-là afin de bien l'interpréter. Nous avons dans la parole de Dieu des textes, certainement des livres qui sont consacrés au peuple d'Israël. Donc, la Bible en partie s'adresse au peuple d'Israël. Nous avons des passages qui s'adressent aux nations ou qui parlent des nations. Et nous avons également des livres qui s'adressent à l'Église. C'est important également de comprendre les dispensations, les alliances dans lesquelles nous vivons. Nous ne vivons plus sous l'ancienne alliance où on fait des sacrifices. Hein? Si vous avez déjà lu votre Bible, on ne fera plus des sacrifices d'animaux comme dans l'Ancien Testament. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est mort à la croix. Il est l'agneau de Dieu immolé. Et le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, si on prend des textes de l'Ancien Testament et puis on prend des textes du Nouveau et on mélange tout ça et on fait un melting pot d'une certaine façon, on peut avoir toutes sortes d'interprétations de la parole de Dieu. Mais si on comprend ce que je viens de vous expliquer, on va comprendre vraiment les instruments de base pour bien interpréter la parole de Dieu. Donc, faire la différence entre nos alliances. Puis en même temps, il faut comprendre que nous sommes présentement dans la dispensation ou dans l'ère de la grâce. La grâce. Et c'est important pour nous. Donc, juste avec ça comme base, c'est vraiment élémentaire ce que je viens de vous dire, mais on va continuer ici avec le besoin. Le pasteur qui prêche la parole de Dieu doit connaître ces choses-là de base. Dans 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5 maintenant, on va voir ici toujours dans la responsabilité du pasteur. Et là, vous êtes là puis vous dites, ben gloire à Dieu, je suis pas pasteur, donc ça ne m'implique pas aucunement. Alléluia, c'est facile à écouter. Mais pas du tout, parce que c'est important pour vous de savoir ce que vous appuyez aujourd'hui. 2 Timothée chapitre 4, et on va commencer au premier verset. Ici, l'apôtre Paul parle encore une fois à son fils spirituel Timothée. Il dit, « Je t'en conjure, je te commande ici, Timothée, devant Dieu. » Remarquez bien comment l'apôtre Paul il parle à son fils spirituel Timothée. Il ne dit pas, « Je te suggère, si ça te tente, puis tu penses que hey, là, c'est un bon moment de prêcher. » Non, il dit, « Je t'en conjure. » Devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, ce qui veut dire être toujours prêt, favorable ou non, que ça tente ou non, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi avec douceur? C'est pour gagner celui qui écoute. C'est de ne pas écraser la personne, mais c'est de gagner la personne. Mais remarquez bien le verset 3. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, dites choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité. » Ça veut dire, je ne veux rien savoir, je ne veux pas entendre ça, ça ne me tente pas. Ils se détourneront de la vérité et se tourneront vers les fables. Et nous vivons dans ce moment-là, enfants de Dieu, où les gens et les églises se détournent de la vérité, refusant de prêcher la vérité de la parole de Dieu et se détournent carrément de la vérité pour s'attacher à des fables. Mais toi, Timothée, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Ça veut dire la calomnie, les gens qui peuvent te critiquer parce que tu prêches la parole. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Continue à prêcher la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Continue à prêcher la bonne nouvelle. Remplis bien ton ministère. Dieu nous appelle à bien remplir notre ministère. Mais pour cela, le besoin de l'Église locale et l'Église avec un grand E, c'est la reconnaissance de l'autorité de la parole de Dieu. L'autorité. Une des choses qu'on doit comprendre, c'est que la Bible, ce n'est pas un menu qu'on peut prendre certains passages et dire, ben ça ici, ça me tente, ça ici, j'aime ça, ça, j'aime pas ça. Non, la parole de Dieu, c'est littéralement l'autorité pour l'enfant de Dieu. Ce que Dieu dit dans sa parole pour nous, c'est oui, je me soumets à la parole de Dieu. Et là, vous dites, ben là, parce que c'est pas très populaire, les gens vont pas nous acclamer, nous applaudir quand on dit que la parole de Dieu est notre autorité. Mais nous devons plaire à Dieu, pas aux hommes. Dans 2 Pierre, chapitre 1, allez avec moi dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Nous allons comprendre ici la raison pourquoi nous devons se soumettre à la parole de Dieu et pas les modes qui changent constamment dans cette société. C'est parce que la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21, il est écrit... Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Remarquez juste ceci là. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Si on s'arrête juste deux secondes, dans le courant, dans le corps de Christ, il y a un courant où on enseigne les gens comment prophétiser. Puis quand ça te tente de prophétiser, prophétise. quand ça te tente. Vas-y. Et on est certainement dans la foi, nous croyons certainement que nous pouvons prophétiser. Mais nous prophétisons selon l'inspiration de Dieu et pas selon la chair. Parce qu'il est écrit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La parole de Dieu que nous avons, elle est une inspiration, elle est inspirée de Dieu, poussée par le Saint-Esprit. Ce que nous avons ici, ce n'est pas juste la parole des hommes, mais nous croyons littéralement qu'elle est la parole de Dieu, inspirée de Dieu. Dans 2 Timothée 3 maintenant, versets 16 à 17, vous allez voir, des fois quand les gens disent, bien, la parole, oui, c'est bien, mais quand même, il faut donner juste des petits morceaux parce que les gens ne sont pas capables de digérer la parole. J'ai la bonne nouvelle, quand on entend la parole de Dieu, la parole est tranchante, elle est vivante, efficace. Elle vient transformer les vies. Et comme vous êtes là en train d'entendre la parole de Dieu, le Seigneur est en train de changer les choses en vous. Il est en train de vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, il est écrit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. » Dites « utile ». La parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre ou réfuter dans la Bible du Sommeur, pour corriger ou redresser, pour instruire dans la justice, dans une vie conforme à la volonté de Dieu, afin que l'homme de Dieu, écoutez bien ceci, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans la Bible du Sommeur, ça dit, « Ainsi l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et parfaitement équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » Ça veut dire, si vous connaissez la parole de Dieu, vous êtes parfaitement équipé pour toutes les œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour votre vie. C'est pour ça, j'ai rencontré des couples qui étaient dans des situations de crise, devant une situation de divorce, qui avaient fait 7 ans de counseling avec des psychologues. Ils sont venus 1 heure dans mon bureau. Et puis, c'est pas gloire à moi, comprenez ceci. Mais avec la parole de Dieu, ils ont eu leur solution dans l'espace 1 heure. Parce que la parole de Dieu est la vie et elle est inspirée de Dieu. Et en 7 ans, avec un psychologue inspiré de Freud, c'est vrai, Freud en anglais, Freud, comme vous voulez. Mais dans l'espace 1 heure, ils ont dit, mais c'est ça notre solution? Oui, parce que nous sommes parfaitement préparés et équipés avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est la solution pour l'humanité. Mais nous devons croire dans l'autorité de la parole de Dieu. Puis il y a des gens qui disent, ben, moi j'ai la misère à croire ci, puis croire ça. Puis... ben, changez. Vraiment, il n'y a pas d'autre solution. C'est soit qu'on se soumette ou on est rebelle. C'est les anciens sentiers aujourd'hui. On est en train de parler des anciens sentiers et ce n'est pas un message à la mode. Je le sais. Amen. Le besoin de l'Église, c'est de prêcher l'Évangile de la grâce. Nous sommes appelés à prêcher le vrai message de la grâce. Mais ce message de la grâce commence premièrement. Et je sens peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dérangés ce matin. Mais Dieu m'appelle à vous déranger ce matin. Et que Dieu vous dérange ce matin. Amen. Que Dieu vous dérange. Mais savez-vous, si vous êtes dérangés en ce moment, c'est l'ennemi de vos âmes. Il veut vous empêcher de recevoir ce que je vais vous dire. Parce qu'il sait qu'il est sur le bord de vous perdre. L'ennemi de vos âmes veut vous garder captif. Il veut vous écraser. Il veut voler votre destinée. Il veut vous emmener avec lui pendant l'éternité. Mais aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, le Seigneur va vous libérer et vous allez recevoir le miracle de la nouvelle naissance. Mais non seulement ça, vous allez recevoir la plus belle vie qu'un être humain peut vivre. Puis ça, là, c'est la vérité que je vous dis ce matin. Dieu, il a une belle vie pour vous, mais le diable, c'est un menteur puis il veut vous séduire, vous faire à croire que qu'est-ce que lui a en réserve pour vous, c'est mieux. Mais c'est un menteur. C'est un menteur. Puis aujourd'hui, je le dénonce. Je réfute son mensonge. La condition de l'homme, un texte qu'on n'aime pas nécessairement beaucoup, mais dans Romains 3, verset 23, il est écrit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Dans la nouvelle mode d'Église, on dit, « Bon, il ne faut plus mentionner le mot péché. Ce n'est pas très à la mode. On peut déranger des gens. Puis ils ne reviendront pas à notre Église. » Mais là, ils reviennent à notre Église. Ils n'ont pas entendu parler du péché. Ils ne se sont pas repentis de leur péché. Donc, ils sont pris avec leur bagage de péché. Ils sont malheureux. Ils sont en chemin vers l'enfer. Ils sont là avec nous dans notre belle grosse Église qui grandit. Puis là, on est là. Hey, wow, notre Église grandit. Mais on n'a jamais prêché l'Évangile de Jésus-Christ. Puis qu'est-ce que ça donne dans l'Église? La moitié d'entre eux ne sont même pas sauvés. Ils n'ont même pas accepté le Seigneur. Ça fait des masses de monde qui sont là. Mais ils ne sont même pas nés de nouveau. Ils ne sont pas sauvés. Mais Dieu nous appelle à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Puis l'évangile commence premièrement avec la reconnaissance que nous sommes pécheurs. Oui, c'est pas populaire. Premièrement, je suis pécheur. Puis si je suis pécheur, je suis dans la mauvaise direction. Je suis perdu. Je suis perdu. Et quand on prêche ce message-là, le Saint-Esprit est là pour venir convaincre le pécheur. On ne peut pas convaincre quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Et là, la révélation est là. Je suis pécheur, mais si je réalise que je suis pécheur, là, je réalise que j'ai besoin d'un sauveur. Et là, la soif est là pour le sauveur. Mais si on fait juste dire, bien, vous êtes beau, puis vous êtes fin, puis venez à EVQ parce que vous êtes béni. Oui, vous êtes béni à EVQ, mais premièrement, vous devez vous repentir, vous détourner de vos péchés, parce que le péché vous tue. Écoutez bien, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous! On a tous passé par la porte du salut et Jésus est à la porte. On a réalisé, je suis pécheur. Ésaïe 64, verset 6 ou verset 5, dépendamment des versions. C'est dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ce texte-là est super important. Parce que certaines personnes, des fois, vont dans les églises, vont dans des religions, peu importe. La religion, c'est toujours la même recette en passant. Sauf que ça varie dans le menu un peu, là. Mais c'est toujours la même affaire. Toujours la même affaire. La religion dit, pour être dans les faveurs de Dieu, performe, mon homme. Ma femme, faut que tu performes. Monsieur, madame, performez. Si vous êtes assez bon, vous allez mériter le ciel, paradis, peu importe. Vous allez mériter quelque chose. C'est toujours la même recette. Mais ça dit ici, nous sommes tous comme des impurs. Tous comme des impurs. Et toute notre justice, notre performance, les bonnes choses qu'on essaie de faire, ça dit, est comme un vêtement souillé. Et nous sommes des adultes en ce moment, dans cette place, je vais vous dire, c'est quoi les vêtements souillés? Littéralement, ça nous parle de serviettes sanitaires. Devant Dieu, c'est ça, vous êtes des vêtements souillés. Nous sommes pécheurs. C'est impossible pour nous d'avoir une relation avec Dieu. Nous sommes totalement coupés. Je vais le relire. C'est un message qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui, qui n'est pas très populaire. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Si on se présente devant Dieu avec notre bonne vie, puis on dit, ben, regarde, j'ai fait des bonnes choses. Dieu nous voit dans notre péché si on n'est pas venu à la croix pour être pardonné. L'unique solution, heureusement, il y a une solution. On ne fait pas juste prêcher. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais heureusement, il y a une solution. Mais la solution est juste bonne si on réalise qu'on a de besoin. Il y a des gens qui disent, ben moi, je suis bien content, je vais à l'église, oh, c'est bon, la musique, oh, c'est bien. Ah, ben Jésus, ouais, je vais l'embarquer dans ma vie, c'est un bon partenaire dans ma vie. Ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas le rajouter dans notre vie. On ne peut pas additionner Dieu et dire, ben je vais rajouter. Non, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous appelle à se voir pécheurs, totalement perdus. Je m'en vais vers l'éternité sans Dieu. Et j'ai besoin d'être sauvé. Je suis perdu sans lui. Et là, on se tourne vers Dieu et on dit, Seigneur, je suis perdu, j'ai besoin que tu me sauves. Et à ce moment-là, là, la solution, elle est là pour nous. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça non plus, c'est pas populaire. Puis un pasteur aux États-Unis qui va dans les talk shows et dit, ben, Jésus est ma solution. Jésus est mon chemin pour moi. Mais pour certains d'autres, ben, c'est votre solution à vous. Puis il a écrit un livre qui est un best-seller dans le monde évangélique. Puis ça prouve que les chrétiens dans le monde évangélique ont vraiment un manque de discernement. Écoutez bien. La solution. Philippiens 2, versets 8 à 11. Ce matin, Dieu vous aime et Dieu veut se révéler à chacun d'entre vous. Ici, ça nous parle de Jésus qui était au ciel dans la perfection de la gloire, mais par amour, Dieu, le Père, l'a envoyé sur la terre pour venir s'offrir en sacrifice pour payer la dette de votre péché, à votre place. Il est écrit dans Philippiens 2, 8 à 11, « Il s'est humilié lui-même, se rendant, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si vous n'êtes pas prêt à vous prosterner devant Jésus-Christ aujourd'hui, vous allez finir par fléchir le genou un jour. c'est juste une question de temps. On dit, mais quel est le bon chemin? Quel est le bon sentier pour nous aujourd'hui à l'Église La Victoire du Québec? Quel est le bon sentier pour nous? C'est la parole de Dieu et c'est le message de l'Évangile de Jésus-Christ qui n'a pas changé. On peut des fois faire des présentations différentes et adapter des présentations, une façon de le dire, même en mime, on peut aller dans les rues et faire toutes sortes de choses. Il n'y a pas de problème, on peut être artistique, on peut chanter, on peut faire plein de choses, absolument. Mais si on a changé le message, on a fait fausse route. Si on a changé le message, on a fait fausse route. Dans 2 Corinthiens 4, verset 5, je sais que j'ai plusieurs versets ce matin, mais ces versets-là, c'est des versets super importants. Dans 2 Corinthiens 4, verset 5, « Voici ce que l'Église primitive prêchait. » L'apôtre Paul a dit, « Nous, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Le salut ne se retrouve pas dans l'Église de la Victoire du Québec. Nous ne sommes pas la solution. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, l'apôtre Paul il dit. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » Je vais le relire. « Nous, nous ne prêchons pas nous-mêmes. La religion prêche toujours son bâtiment, son siège social. Nous, on a l'affaire. Je peux vous dire, on n'a pas l'affaire. À EVQ, nous n'avons pas l'affaire, mais nous connaissons celui qui l'a. On ne peut pas vous sauver. Même si vous faites des gros chèques, même si vous venez servir, même si vous passez à balayeuse, même si vous faites plein de choses, on ne peut pas vous sauver. Il y a un seul Seigneur, son nom est Jésus. Amen. Mais ceci dit, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de sentiment d'appartenance et on ne sert pas dans notre église puis on ne travaille pas dans une vision? Non, c'est important d'être solidaire et de marcher dans l'appel de Dieu. Mais on n'est pas la solution. Ce n'est pas nous. C'est seul Jésus qui sauve. 1 Corinthiens 1, 23, ça dit, « Nous, nous prêchons Christ crucifié. » C'était le message de l'église primitive. « Nous, nous prêchons Christ crucifié. » 1 Corinthiens 2, 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est très simple comme message. On vous présente Jésus qui est la solution. Et je peux vous dire, quand on prêche Jésus, les gens se tournent vers lui. Parce que l'Esprit de Dieu vient accompagner ce message-là. Il y a tellement de choses qu'on peut faire dans la chair et l'onction de Dieu n'est pas là. Et les gens restent indifférents. Parce que c'est tellement léger. On a tellement voulu attirer les gens par l'intellect, par des choses naturelles. Mais les gens restent inchangeables. Ils ne changent pas parce qu'ils n'ont pas été touchés dans le fort intérieur. Mais l'Esprit de Dieu, ce qu'il veut faire, c'est venir tellement convaincre les gens, tellement les déranger, que des fois, c'est comme insupportable d'être assis dans la place tellement que l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un. Ça, c'est une bonne affaire. C'est tellement une bonne affaire parce qu'au lieu de vous en aller séparer de Dieu pendant l'éternité, la conviction de Dieu est là pour vous dire, « Réveille-toi, je t'aime, je ne veux pas que tu t'en ailles loin de moi pendant l'éternité. » Amen. On a besoin de revenir dans les anciens sentiers et de prêcher la parole de Dieu, même si ce n'est pas populaire. Amen. La conviction du péché est nécessaire. Dans Jean 16, verset 8, il est écrit, « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne, en parlant de l'Esprit de Dieu, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Mais vous dites, oui, mais pasteur, on veut en même temps être attirant. Hey, on ne fera pas des efforts pour repousser les gens. Hey, n'inquiétez-vous pas. On ne fera pas des efforts pour repousser les gens. Ce n'est pas notre cœur. Certainement, si on est capable de faire des projets d'évangélisation, être créatif, hallelujah, gloire à Dieu. Mais pas au point où on va s'adapter et adopter les méthodes du monde. Dans nos églises chrétiennes évangéliques, il y en a qui ont commencé à chanter les chants du monde. Des chants du monde dans leurs églises. Puis là, des fois, ils changent quelques paroles pour adapter ça, mais ils disent, ben là, les masses vont venir, ils vont trouver ça cool. Mais il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas d'onction là-dessus. Écoutez bien. Jean 4, 4, ici, il est écrit, adultère, en parlant de l'adultère spirituel, c'est d'être infidèle à notre époux. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. On a chanté tantôt, je suis ami de Dieu. Est-ce que c'est une vérité? Dans cette maison, nous disons, oui, nous sommes amis de Dieu. Le cœur de Dieu est peiné par ces églises qui s'en vont dans une mauvaise direction. Puis aujourd'hui, c'est un privilège pour nous. Puis en même temps, c'est une responsabilité. Des fois, on aimerait ça, ne pas dire ces choses-là. Parce que des fois, on sait on peut déranger les gens. Puis moi, je suis une personne, j'aime pas ça me faire haïr en passant. C'est pas un trip, je cours pas après ça. Mais Dieu est mon boss, puis je dois me soumettre. Puis si Dieu dit, prêche ça, il y a des gens qui ont besoin de l'entendre, je vais le faire. Je vais le faire ce matin. On a besoin de revenir et ne pas être un ami du monde dans un sens où on quitte notre message, on dilue notre message, où on doit démystifier le message ou décortiquer pour l'apprendre, pour le découvrir. Si vous dites, ben moi, pasteur, là, qu'est-ce que tu dis? J'ai jamais senti la conviction du péché. Moi, j'ai juste dit, ben oui, je veux faire partie d'un vécu. Si c'est ça que vous avez pensé, que vous avez fait, si vous n'avez jamais ressenti la conviction du péché avant, bien, vous n'êtes pas encore sauvé, né de nouveau. Vous n'êtes pas encore sauvé. Vous venez peut-être ici à un vécu, puis vous n'êtes pas encore sauvé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez l'être aujourd'hui. Si l'Esprit de Dieu vous convainc, c'est vrai, je suis sur le mauvais chemin aujourd'hui, là. La Bible, le message de la grâce, c'est que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, oui, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par une faveur qu'on ne mérite pas. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Le salut, c'est gratuit, ça ne coûte absolument rien. Vous avez juste à dire, oui, je te donne toute ma vie, Seigneur. Je te donne toute ma vie, prends le contrôle de ma vie. Je te donne ma vie, je m'abandonne à toi. Et le moment que vous vous abandonnez dans les bras de Dieu, Dieu vous prend, il vous adopte dans sa famille, il fait de vous son enfant. Mais vous ne vivez pas ce miracle-là si vous n'avez pas ressenti la conviction, si vous n'avez pas réalisé votre besoin. On n'adhère pas à Jésus-Christ. Ce n'est pas une adhésion. Moi, je vais signer une petite carte, je vais faire ceci, faire cela. Ce n'est pas loisir Québec, Jésus. C'est vrai, c'est sérieux. On se donne à Dieu. Le credo, je vous ai parlé. Je vous ai parlé du credo de cette vague dans les églises qu'on appelle « seeker sensitive » en anglais, où on essaie de tellement attirer les gens qu'on a changé notre message. Je vous donne des informations pour vous laisser savoir qu'est-ce qui se passe, pour vous informer présentement ce credo d'une façon non officielle, mais ça l'est quand même parce qu'il y a un livre très populaire qui a vraiment révolutionné le monde évangélique. Et si ça a pu révolutionner le monde évangélique, c'est une preuve qu'il y avait une famine et qu'il y a encore une famine de la parole de Dieu. Parce qu'on ne prêche plus assez la parole. On prêche toutes sortes de choses autres. Écoutez bien, le credo. Au lieu de s'appeler Église, maintenant la mode, selon ce livre-là, c'est d'enlever le nom Église et d'appeler votre Église, une congrégation, un autre mot. Et je ne donnerai pas d'exemple, je ne veux pas nécessairement offusquer. Mais vous faites penser à toutes sortes de choses. Bannissons le mot Église, c'est trop religieux. Ça peut repousser des gens. Ça, c'est la nouvelle mode. Enlevons les croix de nos églises, symboles religieux, ça peut offusquer quelqu'un, ça va leur rappeler que quelqu'un est mort pour eux. C'est pas très attirant, ça l'attire pas les foules. On rit, enfant de Dieu, mais ça se passe aujourd'hui. Enlevons nos croix des églises. Ne mentionnons plus le péché et le sang. Mais sans l'effusion du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon de péché. On ne parle plus de péché, on ne parle plus du sang de Jésus, on ne parle plus de la solution. Aussi, la chair, même la chair, un pipite, comme ça, la chair. Enlevons la chair, c'est trop intimidant. Ça met une séparation entre vous et l'auditoire. La nouvelle mode, on met une petite chaise avec une petite table et notre latte. Parce que c'est relax. Je suis bien pour ça, prendre un bon café. J'aime ça, le Tim Hortons. Mais il y a un temps pour toute chose. L'éternité, c'est pas relax. Quand on prêche la parole de Dieu, c'est pas relax. Que tout le monde se sente confortable en tout moment, c'est pas mon objectif. Et c'est pas l'objectif de Dieu. L'approche de Jésus, on va voir si Jésus était politically correct et seeker sensitive. Sensible, tellement sensible aux gens qui voulaient jamais rien dire de déplacer. Dans Luc 13, verset 3, il dit, c'est les paroles de Jésus, il dit, « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » La parole de Jésus, ça. Mais Jésus ne serait même pas digne de prêcher dans les églises modernes. L'approche de Pierre maintenant, dans Actes 3, 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous », ça veut dire « changer », pour que vos péchés soient effacés. « Repentez-vous donc et convertissez-vous ». Mais ça, ce n'est pas populaire, pasteur. Dans Galates 1, 8, il est écrit, « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » L'évangile de Jésus-Christ doit être préservé, doit être prêché, et c'est la seule solution pour l'humanité. Même si on cherche à droite, à gauche, et on change toutes sortes de choses. Écoutez bien, dans 1 Timothée 4, verset 1, il est écrit, « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Enfants de Dieu, nous sommes là spirituellement. Nous sommes dans cette époque-là où on a échangé la vérité de la parole de Dieu et on a adopté la pensée du monde et cette pensée-là est venue dans nos églises. Et il y a des masques qui s'éloignent de Dieu présentement. Et Dieu est en train de sonner la trompette aujourd'hui puis il dit au pasteur, revenez à la parole de Dieu. Tassez votre café latte, tassez votre café et revenez à prêcher la parole de Dieu. Jérémie 2, verset 11, il est écrit « Mon peuple a échangé celui qui fait sa gloire contre ce qui ne sert à rien. » Écoutez bien ceci. « Mon peuple a échangé celui qui fait sa gloire contre ce qui ne sert à rien. » Remplir une église avec des gens perdus qui ne sont pas sauvés, ça ne m'intéresse pas. Ce qui intéresse le cœur de Dieu, c'est de voir des gens qui ont réalisé leurs besoins de Dieu, qui ont dit, je réalise, j'ai besoin d'un sauveur, et qui se tournent vers Dieu, et qui vivent le miracle de la nouvelle naissance, et tout d'un coup, le Saint-Esprit vient les habiter. Ensuite, ils continuent à marcher dans la voie de Dieu, sont remplis de l'Esprit, ils vivent une intimité avec Dieu comme jamais auparavant. Ils viennent le dimanche matin à Tefila, sont touchés, rencontrés. Dieu change leur vie, leur donne une vision claire pour leur avenir. Non seulement ils savent que demain, ils vont marcher avec Dieu, mais ils savent que pendant l'éternité, ils vont être avec Dieu au ciel, dans la présence de Dieu. C'est ça qui est merveilleux. Oh, on a une destinée. Là, ensuite, ils découvrent les mécanismes de la foi, comment marcher dans la foi pour pas juste être un petit religieux grincheux qui vit la religion puis qui est frustré de la vie parce qu'il n'y a rien qui marche. Mais non, là, ils commencent à découvrir les principes de la vie chrétienne, les principes, les mécanismes de la foi. Là, ils commencent à se remplir de la parole de Dieu, se remplir le cœur de la parole de Dieu. Et là, tout d'un coup, la bouche parle de l'abondance du cœur. Là, ensuite, la vie change, est transformée. Ils reçoivent la guérison surnaturelle. Les finances changent. Dieu bénit. Dieu fait toutes ces choses-là. Mais c'est impossible sans passer par la croix. Je peux prêcher la grandeur de Dieu, la grandeur de notre salut. Le salut, c'est la délivrance de toutes les œuvres de Satan. Ça, c'est merveilleux. Je peux prêcher tout ça. Mais si vous n'avez jamais été convaincu que vous étiez pécheur, si vous n'avez jamais été convaincu et dit « Seigneur, j'ai désespérément besoin d'être pardonné, de demander de me pardonner de mes péchés », tout ça, ça ne vous sert à rien. Ça ne vous sert à rien, frères et sœurs. Vous dites, comment est-ce qu'on peut savoir comment on est supposé de prêcher l'Évangile? Est-ce qu'on a un modèle dans la Bible? Bien, dans Philippiens 3, versets 17 à 19, le Seigneur a inspiré ici l'apôtre Paul qui a dit comment on devait être dans nos églises. Philippiens 3, versets 17 à 19. « Soyez tous mes imitateurs, pas le monde, imitez pas le monde. » Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant et encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, parce qu'ils prêchent pour plaire aux hommes. Ils prêchent pas pour plaire à Dieu, ils prêchent pour leur ventre. Si je prêche la bonne affaire, bien là, les gens vont donner, puis s'ils donnent, bien mon ventre va être rempli. Mais ça, ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Si j'ai une grosse église, on a la vision que Seigneur, oui, va rajouter dans cette église. Mais dans cette vision, les gens qui vont arriver dans cette église vont savoir qu'ils ont besoin de Jésus-Christ. Ils vont réaliser leur besoin de Jésus-Christ. Et comme cette église va grandir, ça va être une église avec des croyants dedans, avec des gens nés de nouveau. Et ensemble, nous allons briller. Mais une église remplie et plein de gens qui ne sont pas nés de nouveau. J'ai eu un triste rapport récemment, il n'y a pas si longtemps, que dans un ministère de louanges merveilleux où les gens, pendant longtemps, on a été bénis par ce ministère-là, mais maintenant, avant le temps de louange, au lieu de prier et d'intercéder, ils écoutaient du Michael Jackson dans l'église. Puis ils disaient, ah, ça c'est cool, c'est un bon beat, on va refaire ça pendant la louange. Mais depuis ce temps-là, quand j'ai écouté les CD de ce ministère-là, l'onction, là, n'existe plus. C'est des chants, c'est une performance, ce n'est plus du ministère. Ce n'est plus du ministère. Ce qu'on veut, et c'est pour ça qu'on vient prier une demi-heure avant la réunion, pour vraiment inviter la présence de l'Esprit de Dieu dans cette place. Parce que c'est juste l'Esprit de Dieu qui peut convaincre. C'est juste le Saint-Esprit qui peut faire des changements en nous. Et comme on est là pour on a prié ensemble, et là, Pasteur Jean est venu ici avec l'onction de Dieu, il y a des gens ici, vous avez ressenti la présence de Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas un secret. Dieu doit être honoré. Dieu doit être numéro un dans nos vies. Dieu a besoin d'être numéro un dans cette église. Et oui, je vais prêcher tout le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu fait partie de la bénédiction. La bénédiction fait partie du conseil de Dieu. Comment Dieu nous a bénis en Jésus-Christ. Comment nous ne sommes plus maudits. Amen. Ça fait partie. Mais si vous êtes encore maudits dans vos péchés, vous devez sortir de la malédiction pour entrer dans la bénédiction. C'est obligatoire. Et une autre chose, comme nous marchons dans la grâce, et je termine avec ces paroles, comme nous marchons dans la grâce, l'Esprit de Dieu travaille parmi nous, et là, il y a l'amour entre les frères et les sœurs qui se manifestent. Et si quelqu'un tombe, on est là pour relever la personne, jamais pour l'écraser, parce que nous-mêmes, on a goûté à la grâce de Dieu. On a déjà réalisé que nous étions pécheurs. Puis si on se rappelle, moi, j'ai déjà été pécheur, mais celui qui est là, je vais l'aider à le relever. Un de mes derniers versets, dans Jérémie 17, verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui place sa confiance ou qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Mais si on met notre confiance en nous-mêmes, dans nos capacités, on va faire faillite. Mais si on réalise, moi je suis totalement dépendant sur mon Dieu, je suis totalement dépendant sur mon Dieu. Que si quelqu'un tombe, chute, je ne suis pas là pour l'écraser, je suis là pour l'aimer et le relever. On ne met pas confiance dans notre chair. Et prochainement, on arrive vers la fin de l'année, on est au mois de décembre. Bientôt, dans quelques temps, les églises vont proclamer un jeûne de 21 jours. Il y en a d'autres qui vont proclamer la lecture d'un livre qui propose 40 jours de performance. Performez pendant 40 jours, placez votre foi dans votre performance dans ces 40 jours-là. Je sais que je dérange du monde, c'est correct. Mais même si vous jeûnez 40 jours, ça ne donnera rien. Parce que votre foi doit être exclusivement en Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour vous. Puis je veux vous encourager d'écouter le message, la fin spirituelle sur Internet. Si vous ne connaissez pas le jeûne, comment ça marche? Il y a toute une mode dans le corps de Christ où on essaie d'avoir notre victoire par notre propre moyen. C'est impossible. On ne peut pas avoir la victoire par nous-mêmes. La victoire, elle est exclusivement en Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous à la croix. Puis je place ma foi en lui, puis le restant va suivre. Oui, là, je vais découvrir ses principes. Au lieu de parler comme le diable, là, je vais parler comme Dieu. Au lieu de penser les mensonges du diable, là, je vais commencer à penser comme Dieu. Et là, toute ma vie va changer. Mais ça, c'est juste l'obéissance de l'enfant de Dieu qui va changer les choses. Mais la source, c'est toujours Jésus-Christ. La solution, c'est toujours lui. C'est tellement pas compliqué. À l'âge de 3 ans, ma mère m'a dit, « Joël, faut que tu demandes pardon à Jésus pour tes péchés. » Puis j'ai compris, ça prend juste la simplicité d'un enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. La simplicité d'un enfant. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps. Dans cette église, on doit revenir à cette place où on dit, « Mon Église prêche la parole de Dieu, prêche encore le péché, prêche encore le sang de Jésus-Christ, et je suis correct avec ça. Puis si vous n'êtes pas correct avec ça, un vécu, ce n'est pas votre maison. On ne changera pas notre message. On va continuer à prêcher l'Évangile de Jésus-Christ sans compromis. Et vous devez savoir, parce que comme vous semez et vous nous encouragez, nous allons prêcher l'Évangile, mais avec amour et avec douceur pour gagner le plus grand nombre. Parce que les gens doivent savoir que Dieu les aime. Mais le vrai amour dit toujours la vérité. On ne dira pas à quelqu'un qui est en chemin vers la perdition éternelle, continue comme ça, parce qu'on t'aime. Non, ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour va dire, Dieu a des meilleurs plans. Dieu veut t'emmener avec lui. Mais on doit connaître dans cette maison la direction de la maison. Et la direction, c'est dans ces anciens sentiers. Et oui, les gens vont dire, sont démodés. Dans cette église-là, sont démodés. Ça se peut qu'ils vont le dire, ça. On veut les anciens sentiers dans cette maison. C'est ça que nous allons continuer à prêcher. Et pasteur à la maison, à la radio, si vous êtes là et le Seigneur vous appelle aujourd'hui, c'est un message pour les brebis, mais premièrement, je veux m'adresser au pasteur à la maison. Si le Saint-Esprit vous a touché aujourd'hui, puis vous a interpellé à revenir aux anciens sentiers, aujourd'hui, c'est la journée pour vous de prendre votre place en Jésus-Christ, de prendre votre place comme soldat de Jésus-Christ. Parce que le cœur de Dieu en ce moment est brisé pour les églises qui s'en vont dans une mauvaise direction. Mais Dieu veut envoyer un réveil. Mais nous, les pasteurs, nous devons prêcher la vérité de Jésus-Christ. Et les brebis ont besoin d'appuyer leur pasteur dans cette bonne direction. Ils ont besoin d'être là et dire, on va appuyer notre pasteur qui va prêcher la vraie parole de Dieu. Aujourd'hui, pendant que chaque personne vous penchez vos têtes, aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter, même si ça fait 30 ans que vous êtes chrétien, peu importe le temps, si aujourd'hui vous avez ressenti la conviction du péché et vous réalisez, je suis pécheur, je n'ai jamais vraiment donné ma vie au Seigneur, j'ai adhéré à une église, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais je n'ai jamais vraiment réalisé que j'avais besoin de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous demander de lever votre main là où vous êtes et je vais prier avec vous. Il n'y a pas un chat dans cette place qui va se moquer. On va au contraire se réjouir avec vous. S'il y a une personne ici, merci, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si vous êtes là et vous dites, moi j'ai besoin du Sauveur, gloire à Dieu, merci, merci. C'est super merveilleux, gloire à Dieu. Et je ne veux pas vous gêner, mais ce que j'aimerais faire avec vous, j'aimerais ça prier avec vous. Si vous pourriez juste vous déplacer en avant, je vais prier une prière avec vous. Et la parole de Dieu nous dit que vous allez transférer du royaume des ténèbres au royaume des lumières, de la lumière. Amen. Si vous n'avez jamais fait ça avant aujourd'hui, vous qui levez la main, pouvez-vous vous avancer et le peuple de Dieu va se réjouir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui vont s'avancer ce matin? Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous rentrez à la maison. Vous rentrez à la maison. Gloire à Dieu. Je vais vous inviter. Je vais vous inviter ce matin, chaque frère et soeur dans cette place. J'aimerais ça vous demander de répéter pour appuyer cette soeur et ce frère qui ont avancé, qui disent, moi je veux donner ma vie vraiment. Je n'avais jamais ressenti la conviction, puis aujourd'hui je l'ai ressenti. Puis Dieu m'appelle. Pouvez-vous prier avec eux? Pouvez-vous prier? Puis il y en a peut-être, certains d'entre vous, vous dites, moi je sens conviction, j'étais trop orgueilleux. J'étais trop orgueilleux. Aujourd'hui, je vais vous encourager. Ne soyez pas orgueilleux. Marchez sur votre orgueil. Déplacez-vous, on va vous attendre. On va vous attendre. S'il y en a ici, aujourd'hui, on va se réjouir si vous déplacez. Si vous vous déplacez et vous dites, je ne l'avais jamais ressenti, j'adhérais à l'église, mais je n'étais pas sauvé. Aujourd'hui, je vais vous donner encore l'opportunité, pendant que tout le monde penche vos têtes. On vous donne une autre opportunité ce matin. Puis aujourd'hui, vous dites, je le ressens en dedans de moi. Je dois céder. Je dois céder à Dieu. Il faut que j'arrête de me battre. Il faut que j'arrête de me battre. Il faut que je me donne à lui. Avancez-vous, puis on va se réjouir avec vous. Là, on va prier ensemble, enfants de Dieu. J'aimerais ça vous demander, les frères et sœurs, pouvez-vous le dire de tout votre cœur pendant que je vais demander à ma sœur et à mon frère, puis je vais demander à Annabelle, pourrais-tu venir accompagner notre sœur, s'il vous plaît, et prier avec elle? Et aujourd'hui, c'est un jour de miracle, c'est un jour de la nouvelle naissance. Vous allez vivre ce matin le plus grand miracle, le plus grand miracle. C'est celui où un enfant se donne au Père éternel. Je vais vous demander de répéter après moi. Père éternel, je réalise mon besoin de Jésus. Je réalise que je suis pécheur et j'ai besoin de toi. Je veux te demander de me laver, de me purifier de tout péché. Je te donne ma vie au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et remercier? Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Alléluia, gloire à toi Seigneur Dieu. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Une bonne nouvelle dans le psaume 103, il est écrit au verset 10, « Il nous ne traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Dieu est bon pour vous ce matin. « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Et dans Ésaïe 43, verset 25, ça dit qu'il a oublié tous nos péchés. Et maintenant, dans Romains 8, 1, ça dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que vous êtes les saints de l'Éternel. Votre passé, c'est du passé. Vous êtes vêtus d'une robe blanche. Vous êtes purs, vous êtes des saints, vous êtes bénis. C'est merveilleux. On va chanter « Vous êtes les amis de Dieu ». Je vais terminer avec un dernier verset dans Jean 13, 35, c'est dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors aujourd'hui, je veux vraiment vous exhorter, aimez-vous les uns les autres, passez du bon temps dans la famille de Dieu. S'il y a des personnes que vous ne connaissez pas, souhaitez-leur vraiment la bienvenue. C'est important, on veut être ce que Dieu nous appelle à être, une maison où l'amour de Dieu éclate. Amen. Gloire à Dieu. Père éternel, on te remercie pour ta parole qui nous garde dans le bon chemin. Merci Seigneur Dieu pour ces anciens sentiers et Seigneur, dans cette maison, on s'engage de continuer et de poursuivre, Seigneur, la vision que tu as mis devant nous. Seigneur, je veux te remercier pour ta protection divine et Seigneur, sur chaque personne et surtout, Seigneur, aujourd'hui, on veut te remercier pour le miracle de la nouvelle naissance dans cette maison, sur l'Internet, à la radio. Merci Seigneur Dieu, parce que tu es un Dieu qui sauve encore aujourd'hui. Tu libères encore les captifs. On te remercie, on te rend toute la gloire et je décrète sur chaque tête aujourd'hui ton shalom, rien de manquant, rien de brisé, au nom de Jésus.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.